C'est en janvier 1997 que Bernadette Rouéguéra arrivait en France pour suivre son mari, Cré Ikambéré, ce qui signifie maison accueillante en Kinyarwanda, la langue nationale au Rwanda. Ikambéré est une association qui accompagne vers l'autonomie les femmes migrantes vivant en situation de précarité et atteintes de certaines pathologies, VIH, diabète, obésité et hypertension artérielle. Ces femmes vulnérables, très majoritairement originaires d'Afrique subsaharienne, sont accueillies et encadrées dans les différentes structures de cette association en région parisienne. Les explications de Bernadette Rouéguéra, présidente fondatrice d'Ikambéré.
Concrètement, l'association Ikambéré, c'est une prise en charge globale des femmes vivant avec une maladie chronique. À Saint-Denis, des femmes vivant avec le VIH, la maison accueillante. À Ivry-sur-Seine, la maison apaisante. Les femmes vivant avec une hypertension, obésité ou diabète. Et en même temps, nous avons aussi la maison reposante pour les vacances, pour que ces femmes puissent se reposer. La maison reposante se situe dans le 95, à Nesle-la-Vallée. C'est très vert, c'est très reposant. Et donc les femmes précaires, vulnérables, fragiles, peuvent faire un pas de côté et se reposer, mettre les pieds sur la table, échanger, faire des activités, voilà.
Qu'est-ce qui vous a motivé pour créer cette association Ikambéré?
J'ai fait un travail de recherche sur les femmes et les enfants vivant en Île-de-France face au VIH dans le cadre de mes études et d'anthropologie. Suite à ce travail, j'ai compris la souffrance, et j'ai compris l'isolement, j'ai compris tous les problèmes qu'ont rencontrés ces femmes. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que j'agisse.
Vous avez commencé par créer cette maison accueillante. Comment ça a fonctionné au début?
On a commencé le 2 janvier 1997. Au début, on avait un petit appartement de 74 mètres carrés. Les femmes se sont rencontrées pour rompre l'isolement parce que ce qui m'avait choqué, c'était la solitude dans laquelle se trouvaient ces femmes. Et donc, du coup, moi, mon premier objectif, c'était vraiment pour rompre l'isolement. Mais tout de suite, je me suis rendu compte que rompre l'isolement, ça ne suffit pas. Il faut aussi répondre aux besoins existentiels. Il faut aussi répondre aux besoins physiologiques, aux besoins de sécurité, aux besoins d'estime de soi, aux besoins d'accomplissement. Donc il y avait toutes sortes de choses qui nécessitaient en fait qu'à la fois on aille au-delà de rompre l'isolement, mais qu'on se professionnalise aussi en termes d'accueil et d'accompagnement et d'écoute également. Voilà.
Quels sont les services que vous proposez à toutes ces femmes que vous accueillez ici?
Alors on propose beaucoup de services, on a beaucoup de projets, on a aussi beaucoup d'activités. Mais la première chose, c'est que on accueille chaque femme qui vient nous voir, on évalue ses besoins et on commence à l'accompagner pour qu'au bout d'un certain temps, elle soit autonome, qu'elle sorte de la précarité, qu'elle sorte de l'assistanat, mais qu'elle soit responsable de son destin. Je pense que c'est la première chose et la plus importante qu'on fait ici. On accompagne toutes les femmes pour qu'elles puissent avoir un travail, un logement, qu'elles accèdent vraiment à l'autonomie. Ça, c'est essentiel pour nous. Après, on a toutes les activités qui sont autour. On a le sport pour permettre aux femmes vraiment d'être en bonne santé, les activités qui permettent l'estime de soi, l'activité de socio-esthétique. On a les activités d'alphabétisation, informatique, nutrition. On a beaucoup d'activités, en fait, qui vont permettre aux femmes de créer des liens, mais en même temps d'avancer vers l'autonomie.
Il y a aussi cette dimension d'avoir ces papiers en règle en France. La majorité des femmes que vous recevez ici sont des femmes migrantes.
Ah oui, bien sûr, bien sûr. Bah oui, l'autonomie passe par là déjà. Avant, on arrivait bien à régulariser les situations. Aujourd'hui, on essaye, mais je ne vous cache pas que c'est dur. C'est devenu très dur. Déjà, il faut passer un an sur le territoire. Cette année qu'on passe sur le territoire, c'est une année de fragilisation. C'est une année qui expose les femmes, c'est une année qui les met en danger. Et donc, une fois qu'elles ont fait le tour dans Dormao 115, c'est des conditions de vie très, très difficiles qui les fragilisent. Et on essaie de faire une demande. Souvent, elle n'aboutit pas. On va refaire les recours. C'est une démarche de longue haleine, mais c'est très compliqué. Aujourd'hui, les choses sont très difficiles, plus qu'avant, pour régulariser la situation administrative.
Et vous êtes aidée dans ce travail par des professionnels, j'imagine?
Ah oui, on a une équipe d'assistante sociale. On est une équipe de 35 personnes. Je ne travaille pas seule, heureusement, parce que je ne pourrais pas. Ici à Saint-Denis, par exemple, par jour, on accueille 30 à 40 femmes. Quand on distribue les colis, on peut aller jusqu'à 70, 80 ou plus. Donc, on doit être professionnel et plusieurs pour mieux accompagner ces femmes. À Ivry, c'est pareil, on a 15 à 25 femmes qui passent. Là aussi, il faut une équipe solide et professionnelle. Et donc, il y a partout des médiatrices de santé et en même temps une équipe d'assistantes sociales qui écoutent et qui accompagnent. Les médecins en bénévole.
Et dans la maison reposante, comment ça fonctionne?
À la maison reposante, nous avons un chauffeur qui les dépose le mardi et qui va les récupérer le samedi. Quand elles vont arriver, elles vont commencer par déjeuner. Elles ont une cuisinière qui assure la cuisine. Donc ce ne sont pas elles qui cuisinent, elles sont en vacances, comme à l'hôtel. Et elles font beaucoup d'activités. Elles font les activités de physique, elles font la marche, elles font les activités artistiques. Elles se reposent, elles échangent. Et puis, elles sont aussi avec une médiatrice qui reste avec elles toute la semaine. Elle a le temps de les écouter, de les connaître, de savoir qui sont ces femmes qu'on accompagne. Et ça nous permet aussi de mieux les accompagner. Il y a des fois des femmes qui n'osent pas dire les choses. Mais le fait de rester longtemps, au détour comme ça d'une conversation, elles font sortir des choses. Et par exemple, il y en a une qui a dit que depuis qu'elle est en France, c'est la première fois qu'elle dort dans un lit. Nous, on était choqués. On ne pensait pas que des choses comme ça, ça pouvait exister. Voilà. Et du coup, on a un projet d'appartement passerelle. Dès qu'une place s'est libérée, ça nous a permis de la mettre dans les appartements. Et ça, c'était bien pour elle parce qu'elle peut dormir tranquillement. Voilà. Parce que les conditions de vie, c'est important aussi pour une meilleure santé. Si on dort mal, on a mal partout. Voilà.
Il y a combien de femmes qui partent dans ce séjour?
C'est des petits groupes. On a 8 places. On peut héberger 8 femmes, mais souvent c'est 6, 5, comme ça. Et c'est bien parce que le petit groupe s'exprime bien. Elle est plus à l'aise de parler d'elle que dans un groupe de 20 femmes, par exemple.
Est-ce que vous avez d'autres projets?
On a beaucoup de projets, comme les femmes roseaux, qui sont des femmes âgées. Elles-mêmes, elles se sont appelées femmes roseaux parce qu'elles disent que le roseau plie, mais n'auront pas. C'est un projet qui permet à ces femmes de se rencontrer, de faire des activités ensemble, de créer du lien, voilà, d'échanger, de se former. Et il y a des médecins qui viennent échanger avec elles sur des questions qui les concernent, la ménopause, les maladies du troisième âge. On organise aussi d'autres activités qui leur permettent de garder leur mémoire vive. Par exemple, réciter des poèmes, faire la lecture musicale, des choses comme ça, pour les dynamiser et à la fois ludiques, mais en même temps, leur permettre de garder leur mémoire en éveil. Voilà.
Qui finance tout ça?
On est financé par l'État et par les privés aussi.